Bonjour, on va reprendre le fil. Alors, bienvenue à la séance, à la table ronde sur les enjeux épistémologiques de l'écriture de l'histoire des féminismes noirs, africains, afrodescendants en contexte post-colonial en français. Nous avons quatre communications avec six intervenants. Et nous allons démarrer dès à présent avec l'intervention de Myriam Hachimi Alaoui et Lise Lemercier qui aborderont la question des féminismes à Mayotte. La communication s'intitule « Les unes contre les autres, ethnographie intersectionnelle du mouvement des femmes leaders à Mayotte ».
Alors, bonjour, nous sommes très heureuses d'être là et je me permets d'excuser Élise Palomares qui est souffrante et qui n'a pas pu être ici pour présenter. Donc, nous avons conduit nos premières enquêtes à Mayotte en 2012, un an après que l'île soit devenue le 101e département français. À l'époque, rares étaient seuls et ceux qui, en métropole, connaissaient l'existence de cette île de l'archipel des Comores, musulmane à 95% et entrée dans l'Empire français depuis plus de deux siècles. Alors qu'on enquêtait sur la construction et le traitement des inégalités sociales dans le contexte de la départementalisation, on a été très rapidement orienté vers un réseau de femmes qui s'appelait les femmes leaders de la vie publique à Mayotte. Ces femmes étaient alors incontournables dans les médias locaux. Aujourd'hui, elles sont un peu moins devant de la scène publique avec la concurrence de nouvelles générations de militantes. Mais récemment encore, lors de la visite d'Emmanuel Macron à Mayotte en octobre 2019, elles ont été invitées avec d'autres femmes à dîner avec le président en l'honneur des femmes de Mayotte et tout spécialement en la mémoire des fameuses chatouilleuses qui se sont battues pour la départementalisation de l'île. Ce réseau de femmes, les femmes leaders, qui s'est constitué au début des années 2000 avant d'être organisé en association en 2012, a particulièrement centré son action dans des prises de parole publiques condamnant l'immigration des personnes originaires des îles comoriennes voisines et plus particulièrement autour de femmes anjouanaises présentées comme des personnes susceptibles de faire échouer la départementalisation. Donc cette communication vise à explorer l'énigme de la trajectoire sociale et politique qui a amené ces femmes leaders à tenter de promouvoir leur position sociale en s'opposant à d'autres femmes, celles des îles d'à côté, tout particulièrement l'île d'Anjouan, d'où le titre de notre communication, les unes contre les autres, c'est-à-dire à la fois très proches et très opposées. Donc notre propos s'appuie sur une ethnographie conduite depuis 2012 sur plusieurs années, qui nous a permis de suivre les évolutions du mouvement des femmes leaders dans le temps. Dans le cadre de cette communication, on va plus particulièrement se concentrer sur un moment singulier de l'histoire de ce mouvement, celui qui a suivi la départementalisation en 2011, moment où ces femmes ont été très actives et très visibles dans l'espace public. Donc l'étude de cette mobilisation nous a paru particulièrement intéressante car s'y mêle tout à la fois une lutte pour l'amélioration de la participation politique des femmes et une forte politisation de l'immigration dans laquelle les femmes originaires des autres îles sont grandement stigmatisées. Donc il s'agit ici d'analyser leur trajectoire sociale et politique et d'essayer de comprendre leur positionnement vis-à-vis de ces autres femmes si proches. Et si lointaine à la fois. C'est moche. Donc, au moment de la création de l'association Les Femmes Leaders, elles sont une cinquantaine de femmes. Elles ont plutôt entre 30 et 60 ans et elles appartiennent à différents partis politiques. Ces femmes se prévalent de l'héritage des chatouilleuses qui sont devenues les figures mythifiées de la mobilisation pour Mayotte française. Comme l'a montré Mama Yedriss dans son travail doctoral, les chatouilleuses ont joué un rôle central dans la mobilisation et la diffusion des idées départementalistes de Mayotte. Ce surnom de chatouilleuse leur vient de la chatouille qu'elles pratiquaient contre leurs adversaires comoriens. Il s'agit là, comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit d'évoquer la violence des femmes, de féminiser un mode d'action pourtant extrêmement violent. Donc juste quelques mots pour décrire ces chatouilleuses. Ces femmes résidaient en petites terres, là où les institutions coloniales étaient concentrées. Elles étaient mariées à des administrateurs coloniaux comoriens ou vivaient d'activités économiques dépendantes de ces institutions. Donc ces institutions coloniales ont donc joué un rôle important dans la construction de leur position sociale. Je renvoie là aussi aux travaux de Mama Idriss. Cette position a été bouleversée par la décision de transfert de la capitale des Comores de Moroni de 58 à 65, qui a eu des graves conséquences économiques à Mayotte, tout particulièrement en Petite Terre. Donc c'est ce transfert de la capitale qui est régulièrement présenté comme l'événement déclencheur de la lutte pour la départementalisation et plus particulièrement de la mobilisation des chatouilleuses. S'est alors développé un mouvement tout à la fois départementaliste et anticomorien, symbolisé par le slogan « Nous voulons être français pour être libres ». Excusez-moi, il me manque une page. Donc, plus de 50 ans plus tard, les chatouilleuses continuent d'être mises en avant dans le récit national français comme les héroïnes de la départementalisation, celles sans qui cette départementalisation ne serait pas advenue. Et c'est donc de cet héritage que les femmes leaders qui nous intéressent, elles-mêmes, se revendiquent. Dans la page Facebook qui présente leur association, on peut lire que l'objectif est de poursuivre l'engagement historique des chatouilleuses pour la défense des intérêts légitimes de Mayotte. Lorsque nous rencontrons ces femmes leaders pour la première fois en 2012, elles souhaitent que nous allions rendre visite à l'une des dernières chatouilleuses encore vivantes, Zakia Mérès, et elles sont très fières de nous dire que sa fille est dans leur rang. Donc les femmes leaders se revendiquent d'une filiation réelle et symbolique avec les chatouilleuses. Elles aussi ont acquis une position sociale plus élevée que la moyenne des autres femmes de l'île, sorte de position intermédiaire dans l'ordre social hérité de l'époque coloniale. La majorité de ces femmes appartiennent à une élite intellectuelle et locale. Elles sont davantage scolarisées que les autres femmes mahoraises, bac ou bac plus 2. Et on trouve parmi elles beaucoup de fonctionnaires, notamment beaucoup d'enseignantes. Souvent, ces femmes se sont rencontrées pendant leur scolarité ou à des événements liés à la vie des partis politiques. Les plus actives du moment sont en effet des filles ou des épouses de dirigeants de ces partis. Par exemple, la présidente est la fille du fondateur du Parti socialiste à Mayotte et la secrétaire de l'association est la femme de l'ancien président du Conseil général. Donc, dans les relations avec les représentations d'État, les représentants d'État, elles sont souvent mises en avant avec le soutien des élus locaux masculins. Donc l'une des premières actions visibles des femmes leaders, qui a été fortement relayée dans les médias locaux, a été conduite en 2006, lors du recrutement d'un homme d'origine anjouanaise au poste de directeur adjoint des ressources humaines à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Il s'agissait de Daniel Bakar, cousin de Mohamed Bakar, président d'Anjouan. Les femmes leaders se sont opposées farouchement à ce recrutement en raison de la double nationalité du recruté. Franco-comorienne. Elle redoute qu'une fois en poste, cet homme franco-comorien privilégie les franco-comoriens et les comoriens au détriment des mahoraises et des mahorais pour les futurs recrutements. Donc c'est cette affaire qui constitue le point de départ de leur mobilisation pour la préférence locale, mise en lien direct avec le combat des chatouilleuses, puisqu'il s'agit, pour elles aussi, disent-elles, de préserver les intérêts de Mayotte et des mahoraises. Donc la mémoire de la domination comorienne est entretenue politiquement par la surpolitisation de la question de l'immigration clandestine, qui est suspectée par elle de porter avec elle la menace du rétablissement d'une domination historique qui mettrait en danger la collectivité, le nous, les mahoraises et les mahorais. Ainsi, c'est particulièrement autour de la stigmatisation des comoriens à Mayotte qu'elles construisent entre autres, une certaine continuité du combat avec les chatouilleuses. Et c'est précisément à travers ce discours qu'elles sont parvenues à se faire entendre et acquérir une place dans le débat public maoré. Leur mode d'action rappelle celui des chatouilleuses, occupation des locaux de la CPAM lors de l'affaire Bakar, organisation du sit-in à la chambre de commerce et à la mairie pour protester contre le commerce informel, autant de registres d'action qui puisent dans l'expérience de leurs aînés. En 2013, lors d'un de nos terrains, elles reprennent à leur compte la pratique militante de chatouilleuses dite de la tournée. Il s'agit là d'organisation de réunions dans chaque village avec le concours d'un réseau d'une femme implantée dans chaque village. Elles sont installées dans une grande estrade drapée d'un grand tissu aux couleurs du drapeau français et habillés en selouva, prennent tour à tour la parole en Shimaoré. Mais à côté du thème de l'immigration clandestine, qui cristallise l'ensemble du discours, elles mettent en avant la promotion et la défense de la parité et d'une plus grande place des femmes dans la politique.
Donc cette tournée dont Myriam vient de vous parler, donc c'est en 2013, hein, il faut placer ça dans un contexte d'évolution de la parité en France, qui est applicable à Mayotte, c'est-à-dire qu'à partir de 2013, les listes sont binominales en fait au département, aux élections départementales. Donc c'est la première fois qu'il doit y avoir un homme, une femme sur chacune des listes, et donc ça introduit de nouveaux possibles pour les femmes. Et forte de ces évolutions législatives, les femmes, elles ont repris les femmes de cette mobilisation ont repris à leur compte cette nouvelle opportunité qu'offrait pour elles la parité, et un terme qu'elles revendiquent davantage, bien plus que celui de l'égalité, puisque pour elles, l'égalité renvoie davantage à une répartition égalitaire des tâches dans l'espace domestique, ce qu'elles ne souhaitent pas promouvoir, en fait. Donc elles se disent collectivement favorables à la parité en politique, mais pas forcément à un partage des tâches égalitaires au sein du couple. Il faut que vous ayez en tête aussi que cette mobilisation pro-paritaire est une mobilisation qui est transpartisane, hein, parce que le réseau des femmes leaders, comme Myriam vous l'a dit tout à l'heure, il dépasse un clivage partisan. Les femmes leaders appartiennent à différents partis, à la fois nationaux, comme à l'époque l'UMP, le PS, le MoDem, mais aussi des partis locaux. Donc par-delà des clivages partisans, elles se sont regroupées pour défendre la parité. Parce qu'elles disent combien en fait, excusez-moi, j'ai un petit voilà, combien en fait l'action des femmes est ancrée dans une histoire importante à Mayotte, et que les femmes ont quelque chose à défendre de singulier dans la vie politique mahoraise, et elles doivent apporter, selon elles, un renouveau. Alors l'idée que la parité permettrait un renouveau, c'est quelque chose qui a été déjà beaucoup étudié en sciences politiques, hein, notamment les travaux de Marion Paoletti, qui oblige aussi les femmes à performer leurs différences au moment où elles sont élues. Mais ce qui nous a intéressé ici, c'est de voir comment est-ce qu'on pense qu'on doit performer cette différence quand on est dans le contexte politique de Mayotte. Pour ces femmes, performer sa différence, ça veut dire ne pas avoir le même... C'est d'abord et avant tout ne pas avoir la même posture que les élus mahorais hommes, qui sont accusés d'être, là vous avez peut-être vu sur cette citation que je ne vais pas vous lire in extenso, mais des bénis oui-oui, c'est-à-dire on accuse les hommes d'être trop dociles dans les négociations avec l'État, avec le gouvernement ou ses représentants à Mayotte, et que donc ce serait aux femmes, tout comme à l'époque du déménagement de la capitale, de revenir à un dialogue beaucoup plus ferme avec le gouvernement français pour obtenir davantage de politiques sociales, de services sociaux, etc., ou d'écoles, hein, puisque ça fait partie aussi des choses pour lesquelles elles se sont battues. Donc, elles se réfèrent régulièrement à cette histoire des chatouilleuses. Il faut se souvenir que les chatouilleuses se sont battues pour nous. Ce sont elles qui ont permis qu'on soit département. Ce sont les chatouilleuses, pas les politiciens d'aujourd'hui. Donc, en fait, elles se réfèrent à cette histoire de la mobilisation des femmes à Mayotte, et ça leur donne aussi une légitimité, ça renforce leur légitimité à intervenir dans l'espace politique local. Pour autant, elles se disent pas féministes, en fait, et elles savent évidemment à qui elles s'adressent, hein, quand elles disent ça, hein, puisque c'est un extrait d'entretien où elles cherchent aussi à se distinguer d'une certaine image de ce qu'on imagine être une mobilisation pour la parité, et elles insistent sur le fait que la parité est en fait une manière de maintenir un certain équilibre d'un ordre social, selon elles, un ordre social lié au divin, hein, puisqu'elles font référence à Dieu dans leur argumentaire, et pour elles, si elles défendre la parité, c'est pas nécessairement pour se présenter d'ailleurs contre les élus masculins, puisque ce sont aussi des élus avec lesquels elles ont des alliances familiales, matrimoniales. Il n'y a qu'une seule d'entre elles, d'ailleurs, deux d'entre elles, pardon, qui se sont présentées contre des hommes. Et d'ailleurs, elles les ont toutes défendues, quel que soit leur parti politique d'appartenance. Elles ont soutenu ces femmes qui se présentaient, mais très peu d'entre elles ont osé se présenter contre des hommes, et en particulier contre des hommes de leur famille, pour des mécanismes qu'on pourra vous expliquer plus tard. Alors, cette position des femmes dans l'espace public, elle s'inscrit aussi dans une sorte de positionnement qu'elles doivent performer, qui est celui que les femmes en politique à Mayotte doivent peuvent être dangereuses et surtout irrationnelles. C'est-à-dire que contrairement aux élus masculins, qui seraient rationnels dans la négociation avec les élus, il reviendrait aux femmes d'aller dans la rue, occuper, faire du bruit, voire être violentes à travers le cas de la chatouille, hein, qui a pu aussi prendre des formes violentes, comme l'a montré Mamaï dans son travail de recherche. Et que donc ici, la singularité supposée des femmes dans l'espace public, ce serait de prendre une parole qui serait inscrite dans des émotions, qui ne seraient pas dans des calculs partisans, mais bien dans l'idée qu'il faut parler des vrais problèmes, des problèmes de notre quotidien et des problèmes dont on refuse de parler. Et notamment dans ces problèmes dont on refuserait de parler, la question des migrations, puisque un certain nombre d'élus, en tout cas au tout début de notre travail de terrain, n'utilisaient pas du tout les catégories, ne faisaient pas référence à l'immigration clandestine ou aux enjoignés. Ils euphémisaient en fait ce type de discours qui était déjà présent, hein, dans la société civile, aussi parce qu'ils étaient inscrits dans une grammaire républicaine qui facilitait pas leur discours sur ce point. Et désormais, les choses ont un petit peu changé depuis notamment les décasages. Hein. Donc, ce discours sur la violence potentielle des femmes trouve un écho tout particulier auprès des Mzungu de Mayotte, c'est-à-dire les métropolitains qui vivent à Mayotte, qui eux-mêmes nous ont régulièrement dit leur surprise au fait qu'on aille faire des enquêtes auprès d'elles, comment vous pouvez parler à ces femmes qui sont des fachottes, etc., qu'elles leur font peur, et que si on était en métropole, jamais les médias leur laisseraient autant de place dans l'espace public. Donc, ces femmes ont un rapport ambivalent d'ailleurs au racisme et au Front National, puisqu'à plusieurs moments, on les a vues à la tribune dire, puisqu'ils nous disent, en parlant des Mzungu, hein, puisqu'ils nous disent qu'on est des racistes, bah oui, nous, on est comme Marine Le Pen. Et en même temps, quand elles le disaient en Chimaoré, et surtout quand on était là, on sentait leur gêne, en fait, de dire ça, puisque pour certaines d'entre elles, elles avaient vécu aussi en métropole et qu'elles savaient ce que représente aussi le Rassemblement National dans notre regard. Donc, en conclusion, puisqu'il me reste peu de temps, je vais prendre juste très peu de temps pour ouvrir, il me semble, ce qu'on voulait en fait échanger avec vous, c'est qu'il nous semble que ces discours d'altérisation de ce groupe de femmes vis-à-vis d'autres femmes, des femmes qu'on appelle là-bas de l'autre côté, sont marqués par une grande ambivalence. Une ambivalence parce qu'elles sont aussi liées par des liens familiaux, amicaux. On n'a pas eu le temps de vous le dire, mais en fait la plupart d'entre elles ont aussi, puisque la partition elle est récente, ils ont aussi des liens familiaux avec les autres îles. Et cette ambivalence, elle est aussi liée au fait que elles ont le sentiment d'avoir dû faire un certain nombre de sacrifices, notamment parce qu'elles appartiennent à la classe moyenne mahoraise, où elles ont dû se conformer à des normes qui ont été imposées par la nation française, notamment des normes de fécondité, où on leur a imposé la pratique 1-2-3 basse, ça veut dire on fait 3 enfants maximum, pas plus. Elles ont le sentiment d'avoir fait beaucoup de sacrifices, contrairement aux femmes des autres îles, et que l'État français ne les reconnaîtrait pas. Donc cette ambivalence, pour nous, ne peut être analysée, c'est-à-dire pas avec un regard où on dirait juste ce sont des femmes surprenantes qui se mobilisent entre femmes contre d'autres femmes. Il nous semble que pour comprendre ce positionnement-là, il faut le regarder à l'aune d'une trajectoire historique singulière de ces femmes, qui sont des femmes, qui sont d'une élite secondaire parce qu'elle est à la fois toute proche et dans un lien avec les représentants de l'État français, invitées quand des représentants du gouvernement viennent à Mayotte, et en même temps entretenues dans une position subalterne, dominée, et obligées de se conformer à un certain nombre de normes sociales, procréative, linguistique, culturelle, et que ces discours stigmatisants et ces pratiques stigmatisantes à l'égard des femmes originaires des autres îles ne peuvent se comprendre que parce qu'elles s'opèrent à partir de cette position qui est elle-même racisée et qui est faite d'une incertitude collective quant à l'effectivité de la fin de leur statut d'indigène et de, surtout de leur inclusion pleine et entière à la nation, alors que par ailleurs, elles sont en même temps certaines d'une légitimité de femmes autochtones établies en son territoire.
Merci. Alors, c'était une intervention de Élise Lemercier et Myriam Hachimi-Alaoui, toutes deux sociologues, maîtresses de conférences à l'Université du Havre et de Rouen. On va passer à la deuxième communication de Johanna Montlouis-Gabriel, qui enseigne à l'Université de Caroline du Nord. Elle va nous présenter une communication intitulée Afro-Feminist Epistemologies and Lineage Black Women's Literary Testimonies Voilà, merci.
Un, deux. Vous pouvez m'entendre ? Oui, ça va ? Bien, merci beaucoup de cette présentation, Mamaï. Et merci, je tenais à remercier le comité scientifique et les organisatrices d'avoir mis sur pied ce colloque. Je vais présenter en français, en fait. Donc, mon titre en anglais, c'était Afrofeminist Epistemologies and Lineage, Black French Women's Literary Testimonies, que j'ai un petit peu, que j'ai traduit savoir épistémologie, lignage afroféministe. Témoignage littéraire de, en fait, deux femmes noires et françaises. Du coup, dans cette littérature que j'analyse, l'expression de féminisme noir ou afroféministe est très très peu utilisée et revendiquée, en fait, par ces auteurs. Mais si on se sert d'une définition, peut-être même arbitraire, qui veut que toute écriture féministe se veuille être consciente de son aliénation et cherche des solutions qui sont écrites pour se sortir un petit peu de cette aliénation sociale, de ce racisme systémique. Alors les romans dont je vais parler aujourd'hui s'inscrivent dans une réalité littéraire tout à fait égale à ce féminisme noir. Dans mon analyse, qui est en fait vraiment la genèse, le tout début d'un projet, je tenterai de montrer que la littérature des femmes noires françaises peut servir comme base créative à la théorisation pour les futures études afroféministes et au féminisme noir en France. Bien que cette littérature flirte entre les faits réels et la fiction, et comme toute littérature, elle s'inspire vraiment de la réalité, les femmes noires écrivaines dont je vais parler mettent souvent en fiction leurs idées, leurs idéologies, leurs vécus à travers cette littérature. Et donc l'idée de conscience de race que j'emprunte à Paulette Nardal dans les années 30 s'étend donc à ces sphères imaginaires et à la littérature. Ma communication pour aujourd'hui retrace les histoires de ces femmes où les sororités noires se rencontrent, se racontent, et à travers certains événements fictionnels et d'autres qui sont bien réels. Ce sera donc mon objectif d'analyser la production littéraire de Françoise Héga et de Jogustin, que je présenterai un petit peu tout à l'heure, deux auteurs noirs et françaises qui forgent des savoirs féminins et féministes à travers deux personnages, deux femmes noires, à vocation d'auteur. Je me concentrerai d'abord sur les éléments principaux qui guideront les savoirs féminins dans l'œuvre de Françoise Héga, Lettre à une noire, ce que je considère comme vraiment un appel à la libération et un appel à la dignité pour les femmes noires qui travaillent dans le care ou dans le soin. Dans un second temps, j'analyserai l'œuvre de Jogustin, qui s'appelle « Ah, si, si, il faut souffrir pour être française », pour parler d'écriture littéraire comme réutilisation productive de la colère ou du sentiment d'injustice. Et je m'efforcerai à chaque fois de faire des parallèles entre ces deux auteurs. Donc avant de commencer cette petite mise en parallèle, je tiens à mentionner que je mets en commun ces deux œuvres à cause de leurs ressemblances qui sont incroyables, non seulement sur le fond, mais aussi sur la forme. Et en fait, je tiens à préciser aussi que ces deux œuvres sont séparées d'une quarantaine d'années. Françoise Héga écrit « Lettre à une noire » en 1978 et Jogustin écrit « Ah si, si, il faut souffrir pour être française » en 2019, juste l'année dernière. Donc, voici certaines de ces ressemblances. C'est-à-dire, l'un est un roman épistolaire, « Lettre à une noire », à sens unique. Il est aussi daté. L'autre, c'est une espèce de journal intime qui est lui aussi daté. Les deux racontent la division raciale et sexuelle du travail. L'un dans l'exploitation des corps noirs et notamment des femmes antillaises dans les années 1970 en France et particulièrement à Marseille, qui a bien entendu été encouragé par l'État, n'est-ce pas, grâce au bureau des Bumidom, n'est-ce pas, le bureau des migrations et qui cherchait vraiment à faciliter cette migration des femmes noires antillaises pour venir en France. Et l'autre parle de cette même division raciale et sexuelle dans la discrimination à l'embauche, plus moderne. De plus, les deux auteurs, mettent en fiction des femmes noires. La première, dont l'être à une noire, s'appelle Maméga. D'accord. Donc là, il y a vraiment un glissement entre Françoise Éga et le personnage principal, Maméga. Et Sissi, qui ont vraiment une démarche fortement presque en fait ethnographique, c'est-à-dire qu'elles partent à la recherche de témoignages, toutes deux, d'autres femmes noires racisées, et se mettent à écrire leurs confessions, leurs expériences vécues. Les deux romans floutent ainsi donc la barrière entre la réalité, la fiction, l'autofiction. Et en mettant ces œuvres côte à côte, je ne souhaite vraiment pas ignorer les autres romans qui ont succédé à Françoise Éga et ceux qui ont précédé à Jogustin, bien entendu. Mais je souhaite au contraire en fait mettre en évidence ce linéage de savoir qui viennent de la littérature, qui ont été inscrits pour les femmes noires, par les femmes noires, qui, comme je le disais auparavant, peut tout à fait enrichir nos discussions et nos savoirs communs en ce qui concerne le féminisme noir en France. Dans son premier roman, Françoise Éga, dans Lettre à une noire, qui est en fait martiniquaise et qui est arrivée en France pendant à peu près la Seconde Guerre mondiale, elle déménage elle aussi à Marseille comme le personnage principal de Maméga, où le roman se déroule. Maméga décide de se faire femme de ménage lorsqu'elle rencontre une de ses consœurs martiniquaises un jour en sortant de la messe. La narratrice est à la fois donc auteur, car elle essaye d'écrire un livre, mais elle est aussi femme de ménage et elle se fait femme de ménage. Son récit se concentre sur les vies de ses consœurs, qui sont femmes de ménage et qui travaillent près de dames, comme elle les appelle dans le roman, dames bourgeoises et donc françaises blanches. Militante acclamée, la narratrice s'indigne de l'exploitation des corps des femmes antillaises pour servir ces femmes blanches bourgeoises de Marseille. Un épisode qui fait écho à la nouvelle et au film, bien entendu, d'Ousmane Sembène, La Noire 2, mais aussi, peut-être un peu plus récemment, un roman un peu plus personnel qui m'est cher, c'est celui de Marie Scondé, de Victoire, n'est-ce pas, qui parle de sa grand-mère et du fait qu'elle travaillait, n'est-ce pas, en tant que bonne et qu'elle se louait, en fait, à ses familles blanches guadeloupéennes. Du coup, donc Maméga met en scène cette rencontre avec cette antillaise Yolande qui se loue chez ces dames. Et cette dame en question ne la déclare pas à la sécurité sociale, cache sa pièce d'identité pour qu'elle ne puisse donc se sauver. Lorsque Maméga la rencontre, elle est dans une situation déplorable, malade, le corps vraiment faible. Et la narratrice s'aperçoit que cette dernière a, et là je cite le texte, peur de son ombre, peur des blancs, comme au beau temps de l'esclavage. La mobilisation ici du mot esclavage est bien entendu chargée de son passé historique et nous montre à quel point la société néo-libérale qui naît dans ces années 70 continue en fait à perpétuer la division sexuelle et raciale du travail, du soin. Changée par cette rencontre, la narratrice Maméga décide à son tour de faire l'expérience de ce labeur du corps, en se louant elle aussi aux dames qu'elle critique tant. La narratrice milite non seulement pour les femmes noires qu'elle rencontre en les persuadant de mieux se faire traiter ou de partir dans des situations abusives, mais elle les convainc aussi de partir lorsque la situation devient intenable. L'auteur elle-même fait face au racisme. Les dames en question chez lesquelles elle fait le ménage ne l'appellent pas, ne lui parlent pas, ne connaissent pas son nom, ne veulent pas savoir son nom. Elle travaille dans des conditions qui sont elles aussi intenables. Elle n'a pas de pause déjeuner, pas de pause à toilette, rien du tout. La narratrice, donc, en se faisant femme de ménage, fait l'objet de remarques dérogatoires en ce qui concerne son projet de livre qu'elle souhaite rédiger. Il y a beaucoup vraiment ce travail d'écriture qui revient tout au long du roman. Ces remarques, en fait, viennent non seulement de la société qui lui dit, et là je cite, « Retourne auprès de tes enfants qui ont certainement mieux besoin de toi que tu écrives, que de ce projet d'écrire un livre. Mais seulement, elle continue en fait à vouloir rédiger cette œuvre. Son mari et ses enfants ne la prennent pas au sérieux et pourtant, elle s'obstine à vouloir faire ce labeur intellectuel, ce qui est en fait un travail de transmission féminine. Effectivement, la destinataire de la lettre de Mamega, parce qu'elle écrit cette si longue lettre, c'est Carolina. C'est une femme noire, auteure brésilienne, dont elle voit le nom, dont elle lit son nom, en fait, dans un journal français, qui avait fait à l'époque une édition spéciale sur les femmes auteurs noires. Et étant donné qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de femmes auteurs noires françaises, ils ont pris une femme brésilienne qui s'appelle Carolina dans le roman, n'est-ce pas ? Bien que la narratrice écrive à Carolina, qui ne parle même pas français, cette lettre lui est bien destinée. Et donc cette fausse adresse, en fait, lui permet deux choses. La première, c'est de prendre de la distance de son labeur physique qu'elle s'inflige à elle-même et de mettre des mots sur ces mots, M-A-U-X, physiques, qui accompagnent ses gestes quotidiens répétitifs. La seconde chose que ça permet, c'est elle peut être vue comme une tentative de créer des liens transnationaux entre femmes noires du Sud qui connaissent l'exploitation de leur corps. D'autre part, pour la narratrice Mamega, on ne peut écrire à propos d'une expérience que si on l'a vécue. Ce point semble assez trivial, mais il est effectivement important à retenir, car si la narratrice fait preuve de savoir en ce qui concerne son aliénation, les agressions en tout genre, entre autres, elle semble dire que la seule façon de parler de ce racisme, de ce classisme, de ce sexisme, c'est de les vivre. Cela permet donc de nous intéresser sur la production de savoir sur les femmes noires, par les femmes noires. Effectivement, bien que de nombreux chercheurs aient déjà qualifié l'expérience vécue de Mamega d'assez artificielle, son expérience vécue ne peut en rien remplacer le vécu personnel et physique de cette triple aliénation. De plus, par l'écriture et par la littérature, la narratrice a enfin un exutoire pour répondre non seulement aux paroles racistes qui lui sont agressées, qui lui sont adressées. Pardon. En écrivant à une femme noire comme elle, elle n'internalise pas ou peu cette violence physique ou verbale qui lui vient. Au contraire, le fait de l'adresser par écrit à une femme noire qui subit la même condition lui permet d'une façon de contre-attaquer, certes indirectement, et d'en faire un produit tiers qui sera pour elle une joie de pouvoir publier et de partager avec des femmes noires au pluriel. Même si elle sait que son interlocutrice, qu'elle n'a d'ailleurs jamais rencontrée, ne la lira probablement jamais, elle prend modèle sur la femme noire écrivaine que Carolina représente à ses yeux. Et bien qu'on puisse considérer la communication, que la communication échoue entre elles, l'acte même de se solidariser avec une autre femme, avec une autre femme du Sud, on peut considérer que c'est un acte de sororité qui tend à être célébré, et vraiment une preuve du féminisme noir sous-jacent. Donc, je vais me tourner très vite sur le roman de Jaugustin, Assisi, il faut souffrir pour être française. Jaugustin se considère comme une auteure, comédienne et activiste française. Dans plusieurs entretiens, elle parle de sa décision d'écrire, non pas comme une option potentielle, mais quelque chose qu'elle se devrait de faire pour elle-même. Et là, je la cite. « Si j'écris, c'est pour me dire que ce n'est pas que dans ma tête que je ne suis pas folle. Ce n'est pas que dans mon vécu. » L'auteur confie également ressentir de la colère et un certain sens d'apaisement à la fois lorsqu'elle rassemble différentes femmes racisées noires pour leur demander de lui raconter leur expérience. Et là, je la cite encore une fois. « Quand on voit que d'autres femmes racisées vivent ce même genre d'entretien d'embauche discriminant, ça met en colère, mais ça rassure. » Donc le mot colère et rassurance me frappe tout particulièrement ici. Et j'aimerais peut-être pas m'y attarder, mais l'analyser très rapidement. La colère, certainement vue comme une émotion négative ou à canaliser, n'est-ce pas ? Et ici, la source d'une création littéraire. Elle est donc utile pour rappeler que la violence langagière ou la colère peuvent être dites de façon éloquente et produire un discours qui permette de faire communauté avec l'une et l'autre. Et à titre entre parenthèses, enfin, ce sont vraiment la colère comme catalyste créative a vraiment été beaucoup mobilisée dans les féminismes noirs, notamment afro-américains. Merci. Je vais juste passer à mes remarques de conclusion du coup. Okay. Alors bien que ces livres du coup aient été écrits avec vraiment plus de 40 ans d'écart, leur ressemblance quant à la mise en scène d'une femme auteure noire qui narre ses propres discriminations au quotidien et celle de ses consœurs noires les distingue de la simple écriture fictive pour le simple et pur plaisir littéraire. Pourquoi donc se concentrer sur l'écriture créative et littéraire alors que d'autres domaines comme les sciences sociales ou les cercles militantistes seraient tout à fait et sont tout à fait aptes à conduire ce genre d'enquête avec des chiffres et des données concrètes? Je vais ici montrer que l'impact de la réception à la lecture de ces deux œuvres sur les femmes noires est conséquente. Comme la féministe noire britannique Pamela Oene-Nyako a écrit dans son essai, les femmes noires qui lisent de la littérature écrite par des femmes noires donnent des clés pour échapper à la systématisation et donnent à ces femmes un miroir pour refléter leurs peurs, affirmer et les rassurer, et légitimer leur colère, ces sentiments d'injustice qui ne le sont pas toujours en fait légitimés dans la vie quotidienne. Ce projet peut certes sembler utopique, mais il nous aide à tracer ainsi des savoirs des femmes noires laissées en héritage, bien que certains passaient sous silence depuis les années 70 et bien avant. Ainsi, à ne pas affirmer que la lutte afroféministe française n'est qu'une pure invention américaine, lorsqu'elle est bien ancrée dans la pensée intellectuelle et littéraire, et dans la tradition littéraire que nous avons toutes en héritage. Et donc j'espère avoir pu montrer qu'on puisse se raconter, qu'on puisse se dire par nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour savoir d'où on vient et imaginer des avenirs émancipés, pour nous appartenir à nous-mêmes, pour utiliser l'expression de Fania Noël. Et merci de votre attention.
Merci Johanna. On va passer à la troisième communication. On va accueillir Keith Joseph Massena, qui est professeur à l'Université de Miami.
Très bien.
Et qui va intervenir sur le féminisme littéraire haïtien avec le texte Exiliphonique. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Textualisation d'un afroféminisme sonore.
Très bien. Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très émue de faire partie de ce colloque et de vous voir toutes. Voilà. Donc, merci. In the beginning, there were no words. In the beginning was the sound, and they all knew what the sound sounded like. Que je traduis au féminin. Au commencement, ce n'était pas le verbe. Au commencement, c'était le son. Et elles savaient toutes comment le son sonnait. Toni Morrison, Beloved. Comme l'affirme la citation de Toni Morrison, le son, le mode du sonore et par lui le mode du vocal tient une part importante dans le processus de subjectivation de tout humain, mais plus particulièrement peut-être dans les cultures afro-diasporiques pour lesquelles de l'Anandala sud-africain au négro-spirituel africain-américain au groupe de Sewell haïtien qui contestait sans en avoir l'air l'occupation américaine, le sonore et le vocal n'en finissent pas de constituer des modes de résistance et d'élaboration de soi face aux ordres annihilateurs, esclavagistes, coloniaux, néocoloniaux. Ce travail se situe dans la mouvance de travaux de féministes telles que Myriam Chancy, qui ont dénoncé et tenté de remédier à l'invisibilisation des apports théoriques collectifs des auteurs haïtiennes. Au cours de cette présentation, qui rend compte de ma recherche doctorale, je mets en valeur une contribution théorique collective de la part des auteurs haïtiennes contemporaines qui jettent les bases d'un féminisme littéraire afro-sonore. Je lis sous cet angle trois romans, La danse sur le volcan de Marie-Vieux Chauvet, Le livre d'Emma de Marie-Célie Agnan et Fado de Kent Limars. En effet, dans chacun des trois romans, la narration est organisée autour d'un processus vocal spécifique allant de l'apprentissage de l'art lyrique dans La danse sur le volcan, l'interprétariat dans Le livre d'Emma ou l'initiation vaudou dans Fado. Ce processus vocal voit la protagoniste principale, une femme haïtienne dans chaque cas, se transformer au cours d'une métamorphose aussi mystérieuse que saisissante. Et Jules utilise une approche critique de la voix, associée à l'épistémologie vaudou et au black feminism tel qu'envisagé par Daphne Brooks avec son concept de praxis féministe afro-sonore, pour envisager ces métamorphoses vocales comme autant de mobilisation de la divinité vaudou Ezili. Et vous allez savoir qui est Ezili avant la fin de cette communication. La portée féministe d'Ezili a été soulignée par plusieurs auteurs tels que Natasha Omoseke-Tinsley, Colleen Diane. Au cours de ma présentation, donc je conceptualise les textes dont je vous ai parlé comme des textes ezili-phoniques. Je forme l'adjectif ezili-phonique à partir de la conjonction du mot ezili et du mot phonique qui fait référence à la voix ou au son de la parole. Et en fait, je fais l'hypothèse que grâce à leur mobilisation textuelle des Ezili qui mettent l'accent sur la voix et la vocalité comme centrale dans la subjectivité des femmes haïtiennes ou diasporiques, ces auteurs haïtiennes contemporaines développent les modalités d'un féminisme littéraire afro-sonore. Ok. Mais, vous allez me dire, qui est, ou plutôt, qui sont les Ezili ? Les esprits Ezili occupent une place privilégiée dans le vaudou haïtien. Ce sont des divinités aquatiques originaires du Bénin près du lac du même nom. Il existe plusieurs itérations de loa Ezili dans le vaudou haïtien. Cependant, deux d'entre elles sont celles qui apparaissent principalement dans les textes dont je parle aujourd'hui. Il s'agit tout d'abord d'Ezili Freda, l'une des plus aimées et puissantes de tous les Loa, déesse de l'amour, comparable à Oshun, séduisante, amoureuse éternelle et particulièrement éprise des belles toilettes et parfums. Elle est associée à la notion de conversion de classe. Souvent représentée comme ayant la peau claire, elle est en proie à des grands paroxysmes émotionnels. Elle est connue pour arriver en étant très joviale aux cérémonies, et puis, malheureuse en amour, elle repart en larmes. Son corollaire dans le panthéon ezilien est Ezili Danto, la mère célibataire, passionnée, protectrice de ses enfants. C'est une déesse représentée comme ayant la peau noire et elle est associée en particulier au soulèvement des esclaves et au combat pour la libération noire. Elle est fréquemment dite lesbienne et particulièrement révérée parmi les personnes LGBTQ. Freda et Danto sont des esprits qui marchent ensemble, selon l'expression consacrée, donc qui sont à la fois irréconciliables et indissociables. Leur dialectique fait du système discursif ezilien un système marqué par la polyvocalité. Et dans le texte ezilifonique, je fais l'argument que ce ne sont pas seulement les éléments de la mythologie ezilienne qui sont mobilisés, mais que les auteurs textualisent en particulier les spécificités vocales éziliennes. Alors celles-ci sont multiples, hein, je m'étends sur ces spécificités dans mon livre qui va bientôt paraître, j'espère. mais pour les besoins de cette présentation, je n'exemplifierai qu'une d'entre elles qui apparaît dans les trois romans, qui est ce que j'appelle la polyvocalité ezilienne, hein, le principe, c'est vraiment ce principe de polyvocalité, qui est illustré dans les romans au travers de cette figuration transcorporelle du mode vocal. Donc, dans La danse sur le volcan, qui est le deuxième roman de Marie-Vieux Chauvet, paru en 57. Cette poétique transcorporelle du vocal se déploie dans la dialectique entre deux personnages. Minette, la jeune affranchie, miséreuse, devenue cantatrice célèbre sur la scène théâtrale ségrégée de Saint-Domingue, pré-révolutionnaire, et Joseph Auger, l'orateur anti-esclavagiste dont la voix se trouve mutilée. Joseph est le frère de Vincent Auger, héros de la révolution haïtienne. Il fait partie du cercle anti-esclavagiste de Lambert et à ce titre, il enseigne à lire à des esclaves en cachette, une activité proscrite par le Code Noir pour laquelle il est puni, comme le révèle la scène suivante où Minette retrouve Joseph après sa captivité. Je cite « Joseph !» s'exclama Minette. Il avait changé, son visage était maigre et tiré. Il regarda Minette et sourit sans lui répondre. « Joseph, hurla-t-elle, qu'est-ce que tu as? Que t'ont-ils fait ?» Il avait à la main un morceau de papier et un crayon. Il le regarda avec appréhension. Jasmine lui arracha le papier des mains et le tendit à Minette. C'était l'écriture de Joseph. Elle y lut cette courte phrase. « Ils m'ont coupé la langue. » Fin de citation. En parallèle de l'ascension que le texte porte aux souffrances matérielles et cicatrices des corps et esprits des personnes esclaves et à la survivance, à leur survivance en filigrane, la portée métaphorique de la torture que subit Joseph et sa voix fantôme qui, à la suite de cette scène, hante le texte, fait écho de manière troublante aux propos de Alexander Waelier sur la modernité du sujet diasporique afro-sonore et ce qu'il désigne comme les phonographies récurrentes dans les littératures diasporiques. Pour Alexander, la figuration phonographique correspond à une stratégie narrative qui met en lien voix et subjectivité noire fragmentée sous la forme de l'apparition de la voix dissociée du corps dans le texte littéraire. Celle-ci est souvent associée aux techniques de reproduction de la voix, comme par exemple le phonographe, qui apparaît dans le texte littéraire. Donc ici, le dispositif de reproduction de la voix, c'est le papier qu'utilise Joseph pour transcrire sa voix manquante. Donc loin de s'arrêter à cette scène tragique, Marie-Vieux Chauvet continue à avoir recours à la matérialité de cette voix manquante pour troubler le texte. Mais la figure du personnage à la langue coupée révèle également la textualisation d'Ezili. On y revient. En effet, Ezili Danto, lorsqu'elle chevauche l'un ou l'une de ses dévotes ou dévots lors d'une cérémonie, s'exprime souvent uniquement avec des onomatopées telles que les répétitions de « ké » ou de « dé », car elle aurait eu la langue coupée au moment de la révolution haïtienne afin de garantir qu'elle ne parle pas. Par la suite, la voix fantôme de Joseph va continuer à hanter à la fois le chant de Minette, mais aussi le texte lui-même, jusqu'à ce que, conformément aux métamorphoses vocales permises par le système discursif ésilien, Minette finisse par incorporer la voix fantôme de Joseph à la fin du roman. Donc, si la transcorporalité ésilienne et sa dialectique est déjà palpable dans La danse sur le volcan, elle est particulièrement centrale dans le livre d'Emma de Marie Céliagnan, publié en 2001. Ce premier roman de l'auteur retrace un processus de métamorphose vocalisée particulièrement complexe. Le récit a pour personnage principal Emma Bratt, qui est détenue dans un hôpital psychiatrique canadien, après avoir tué sa fille, qu'elle a voulu protéger de la malédiction qui s'abat sur les femmes de sa lignée. En préparation du procès, son psychiatre, le docteur Matlod, fait appel au service de traductrice de Flore. En effet, Emma, bien qu'elle parle couramment français, refuse de s'exprimer dans cette langue. Imitant la réclamation du droit à l'opacité de son personnage, Agnan ne spécifie jamais le nom de la langue qu'Emma et Flore ont en partage, bien qu'on puisse imaginer qu'il s'agit du créole haïtien. Donc, à mesure que le récit avance, l'ambiguïté narrative entre la voix d'Emma et celle de Flore s'installe, soulignant la polyvocalité narrative. Lorsque la traduction de son récit est enfin achevée par Flore, Emma se pend dans sa chambre d'hôpital. Alors, donc, Flore, qui, au cours du roman, s'est rapprochée du mari d'Emma, Nicolas, le rejoint. Et alors qu'ils font l'amour, Flore affirme « Mon corps, enfin, je cite, « Mon corps était celui d'Emma. » Fin de citation. Donc la métamorphose de Flore et sa possible contamination par la malédiction des femmes de la lignée d'Emma transcendent les notions de parenté hétéronormative, mais aussi les possibles de la transmission vocale et remet en question les limites corporelles au sein d'une transcorporalité caractéristique des cultures afrodiasporiques qui souligne la porosité de nos corporalités. Donc cet aspect, on va le retrouver dans le troisième et dernier roman dont je vais parler aujourd'hui, qui est Fado, le troisième roman de Kate Limars, qui paraît en 2010. Et donc parmi les trois romans réunis dans ce corpus, Fado est sans aucun doute celui qui s'inscrit le plus visiblement dans un mode discursif hésilien. La protagoniste principale et narratrice porte le nom d'Anaïs, qui est bien sûr celui de la protagoniste de Gouverneur de la Rosée, Jack Roumain, mais également le nom de la fille d'Ésilie Danto. Quant à celui de son double, Frida, il semble faire directement référence à Ésilie Freda. Donc, à la différence de La danse sur le volcan et du livre d'Emma, dont les fils narratifs suivent pas à pas le processus mystérieux et inexpliqué d'une métamorphose qui est permise par le vocal, dans Fado, la lectrice est mise devant le fait accompli de la métamorphose grâce à un incipit, donc le tout début du roman, qui illumine ce que le chant peut dire du désir et des possibilités d'évasion qu'il recouvre. Je cite. C'est quoi cette musique ? Un fado. Ah, il fait. Léo m'a finalement posé la question qui l'habite depuis quelques jours, mais j'en lis plein d'autres dans sa tête. Tant de choses qui l'attirent, mais dont il a aussi peur, comme ce fado que j'écoute sans arrêt, la voix d'Amalia Rodriguez qui donne à ma chambre l'intensité des départs. Ces guitares laissant sur ma peau un parfum d'adieu insupportable. Fin de citation. La métamorphose d'Anaïs est mise en lien d'emblée avec l'écoute de la voix d'Amalia Rodriguez, chanteuse illustre de Fado, une association qui rappelle le titre du roman et qui est d'ailleurs scandée tout au long des 33 chapitres du livre. Dès l'incipit, donc, la lectrice découvre qu'Anaïs, bourgeoise divorcée vivant dans les hauteurs de Port-au-Prince, a une relation sexuelle passionnée avec son ex-mari, dont elle s'est à nouveau attirée les charmes grâce à sa transformation ésilienne. Sans que Léo ne s'en rende compte, Anaïs est en effet déjà à 16 heures Frida, prostituée dans un bordel de Port-au-Prince, amoureuse du proxénète Bonnie, qui l'a initiée au travail du sexe et à la voix d'Amalia Rodriguez. Cette transformation reste toutefois mystérieuse, même pour la narratrice elle-même. Je cite « Je suis Frida, des fois, selon les jours, mais cela, tu ne le comprendrais pas, Léo. Une histoire qui m'échappe, moi-même, me dépasse. » Fin de citation. Par contraste avec les deux autres romans, la métamorphose d'Anaïs se pose avant tout en termes érotiques. L'auteur Sami Chak remarque que dans le texte littéraire spéculatif ou fantastique, écrit par des femmes de la diaspora noire, la dimension magique est souvent utilisée comme le domaine érotique, dans le domaine érotique. Le rapport Loa-Dévo est aussi un rapport érotique. Les dévots et les dévotes s'envisagent souvent comme étant dans une relation amoureuse avec leur Loa. Ésilie Freda, déesse de l'amour, a d'ailleurs la particularité paradoxale de parfois exiger le célibat de la part des dévots ou dévotes. Donc le caractère érotique libératoire de la métamorphose d'Anaïs ou Frida nous rappelle les remarques d'Audrey Lorde dans The Uses of the Erotic. The Erotic as Power. Je cite. L'érotisme offre une source de force ressourçante et provocatrice à la femme qui ne craint pas sa révélation. L'érotisme est une mesure entre le début de notre sensation d'être et le chaos de nos émotions les plus fortes. L'effet d'Audrey Lorde se fait sentir. C'est une sensation de satisfaction interne dont on sait une fois qu'on... C'est une sensation de satisfaction interne dont on sait une fois qu'on en a fait l'expérience qu'on peut y aspirer. Fin de citation. Sous la plume de Lorde, l'érotisme prend les atours d'Ésilie qui est à la fois, comme le propose Karen McCarthy Brown, un miroir et une carte, dans le sens où elle fonctionne à la fois comme un moyen d'éprouver son identité et comme une orientation vers une autonomie et une complétude émotionnelle. Pourtant, la dimension libératoire côtoie très tôt dans le texte une dimension mortifère. Similairement au système discursif hésinien où se côtoient érotisme, soumission et ivresse de la possession, si l'érotisme développé par Anaïs lors de sa métamorphose a un aspect libératoire, elle semble s'épanouir avant tout dans un plaisir du pouvoir qu'elle exerce sur Léo. Au fil du texte, la lectrice apprend que l'entrée dans la sexualité de la narratrice principale est traumatique. Elle a subi des viols répétés, perpétués par la figure paternelle du directeur de l'école, de son école, suivi par des avortements clandestins traumatiques cachés à son entourage. La potentialité libératoire de la libération sexuelle d'Anaïs Frida est donc mitigée tôt dans le texte et par le fait qu'elle semble orientée par un besoin de reproduire le trauma sexuel subi dans une situation où Anaïs Frida a l'impression d'avoir cette fois-ci le contrôle. Et donc je vais en venir à ma conclusion, qui est en fait, qui sont un peu des remarques sur le texte hésiliphonique tel que je le vois. Le texte hésiliphonique est un texte troublant, déroutant, dissonant, en partie à cause des transfigurations de la voix qu'il présente. Ces transfigurations ne sont jamais gratuites, mais en ce qu'elles sont de la voix, elles sont aussi du corps et traduisent les violences subies par le corps et esprit des femmes haïtiennes dans leur historicité. Ces auteurs ne se contentent pas, bien entendu, de traduire, mais proposent aussi des modes de révision et des lignes de fuite par rapport aux ordres coloniaux, genrés, etc. Centrés sur la voix et croisés à leurs expériences spécifiques, les textes hésiliphoniques et le féminisme afrosonore qu'ils déploient permet de questionner, subvertir et transgresser les compréhensions cartésiennes binaires et restreintes de la voix et de l'humain au sens de leur contre-récit. Ces dissonances du texte hésiliphonique font entendre un ensemble complexe de passions et d'amertume qui résonnent et racontent l'histoire de nos voix, l'histoire de la manière dont, par elles, nous choisissons et sommes contraintes d'habiter nos vies.
Merci. Merci pour ces explications sur le texte hésiliphonique, j'ai réussi à le dire. On va passer à la dernière intervention d'Ingrid Château et Théophile Coppet qui donc sont en préparation de projet de thèse et ce qui nous permet de revenir aux fondamentaux, au féminisme à travers les mobilisations collectives. Leur communication s'intitule « Féminisme noir en France, 1976-1982, dialogue sur les formes de mobilisation collective et leurs enjeux ».
Du coup, nous avons la tâche difficile de clôturer cette table ronde du coup après déjeuner. Du coup, merci à tout le monde pour votre courage. Voilà. Cette intervention, du coup, les féminismes noirs à Paris 1976-1982, dialogue sur des formes de mobilisation collective, se veut être un dialogue entre deux disciplines principales, du coup, l'histoire pour moi et la sociologie pour Ingrid. Il était important aussi pour nous de faire dialoguer nos mémoires parce que ce sont en tout cas des interventions qui sont issues de nos mémoires de master que nous venons de finir l'année précédente. Alors, comment ça se passe ? En termes d'introduction, il est important pour nous de rappeler en fait que les mobilisations collectives de femmes noires s'inscrivent dans un temps long de lutte et qu'il n'y a pas de révolution scientifique comme on pourrait avoir l'impression qu'il est en train de se passer en ce moment, en tout cas depuis une décennie, dans l'Académie française avec l'importation du concept ou en tout cas des concepts d'intersectionnalité. On va prendre un exemple assez parlant en se rebasant sur une brève généalogie des luttes des femmes noires en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, avec les luttes en période d'esclavage, les luttes dans les sociétés mutualistes de la fin du XIXe siècle, les luttes pour l'accès à la citoyenneté et au droit de vote de la fin de la première moitié du XXe siècle, les luttes pour... les droits sociaux dans les années 50 et 60, du coup les luttes ouvrières, et enfin les luttes dans les années 70 pour l'autonomie au corps et les résistances face à l'Église, du coup qui est très importante et très puissante dans la Caraïbe française, mais également en Guyane et à La Réunion. C'est ça. Dans les années 1960 et 1970, en Occident et en France, de nouveaux mouvements sociaux s'organisent en dehors des partis politiques classiques et des syndicats traditionnels. Ces luttes sont focalisées sur une aspiration à un changement social immédiat autour d'une identité individuelle identitaire. Selon Mathieu Lilian, ces nouvelles mobilisations sont définies par trois dimensions qui sont importantes à retenir et du coup à souligner. Il s'agit tout d'abord de la contestation, il s'agit ensuite de la notion de collectif et enfin de l'aspiration à des changements sociaux. Les militantes noires dans le Paris des années 1970, innovent en ce qu'elles mobilisent, en plus de ces trois dimensions, la catégorie identitaire. C'est donc la première fois que la catégorie femme noire est mobilisée pour justifier d'une action collective et contestataire en France, à savoir qu'à la même période, notamment en 1978 en Angleterre, du coup outre-Manche, un groupe qui s'appelle le Brixton Black Women's Group revendique également ces trois dimensions, comme je viens de le souligner, et revendique également cette identité de femme noire. Cette première utilisation du coup de ce type est le fait de deux collectifs, la coordination des femmes noires et le mouvement des femmes noires. Donc la coordination des femmes noires 1976-1982 et le mouvement des femmes noires qui est issu d'une scission avec la coordination des femmes noires qui est actif entre 1978 et 1982. Ces deux collectifs ne sont pas déclarés loi 1901. Leurs membres sont uniquement des femmes noires issues de la Caraïbe française ou d'anciennes colonies françaises d'Afrique subsaharienne. Ils sont tous deux actifs à Paris, une métropole postcoloniale, pour prolonger l'expression de Jennifer Boitin, en période post-glorieuse, c'est-à-dire dans les années 70-80. Nos sources proviennent principalement de documents de première main, c'est-à-dire des affiches, des tracts, des brochures, des communiqués. Nos sources proviennent également de la presse, qu'elle soit féministe, militante ou de la presse quotidienne comme Le Monde ou Libération. Et nous avons également mené plusieurs entretiens avec quatre militantes, principalement de la coordination des femmes noires. Nos enjeux aujourd'hui, notre problématique est de savoir non pas si les femmes noires se sont organisées politiquement et politiquement en tant que telles et collectivement dans les années 70, puisque ce n'est pas le débat, on le sait, mais plutôt de quelle manière elles se sont organisées. Il s'agit ici donc d'une réflexion sur les enjeux de catégorisation de ces mobilisations, des mobilisations de femmes noires en contexte post-impérial français, à partir du cas de la coordination des femmes noires et du mouvement des femmes noires. À travers cette étude, il s'agit également de questionner l'implication de ces mouvements-là dans une histoire qui serait plus globale, dans une histoire de revendication d'une identité noire et ainsi dans l'intégration de l'histoire de la tradition radicale noire. Notre propos va se présenter en trois points. Tout d'abord, on va s'attarder de manière très très pragmatique, très technique, sur l'émergence d'organisations de femmes noires organisées collectivement et politiquement en tant que telles dans les années 70. Puis nous nous intéresserons aux formes de mobilisation avec différentes stratégies de militance. Et enfin, nous nous intéresserons à la mobilisation de la catégorie identitaire comme élément innovant de ces deux collectifs. Tout d'abord, les conditions d'émergence. Il nous importait, en tout cas, dans un colloque international, de rappeler qu'on est vraiment dans un ensemble, dans un contexte qui est très, très particulier, en tout cas en France, mais de manière générale en Occident, puisqu'on est dans une logique de lutte globale. On va avoir des luttes de l'immigration, on va également avoir des luttes féministes. Il nous semblait aussi important de rappeler qu'en 1975, il y a environ 200 000 migrants africains et caribéens en France, dont 80% sont basés à Paris, ce qui fait de l'étude de Paris une étude très importante. En fait, dans l'enjeu de lutte. À la fin des années 70, donc en France hexagonale et du coup à Paris, les étrangers issus des anciennes colonies sont majoritairement masculins et prolétaires, d'où la figure du travailleur immigré. En 1974, les frontières françaises sont fermées jusqu'en 1977 pour l'immigration de travail. L'immigration de l'intérieur est favorisée par le Bumidum, dont une forte propension de femmes, une forte proportion de migration féminine, qui est organisée du coup par ce Bureau pour le développement des migrations des Outre-mer. Pour cette information, on peut s'intéresser aux travaux de Sylvain Patieu. Le regroupement familial est appliqué, enfin est voté en 1974 et sera appliqué par le Conseil d'État en 1976. Et les étrangers luttent principalement dans deux organisations autour de deux axes principaux. Du coup, dans un premier temps, la poursuite de l'anticolonialisme au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire et de la grève des loyers au sein de Révolution Afrique. Et je me perds dans mes feuilles, forcément. Alors, je me suis perdu. Pourquoi c'est... Ah, c'était là, pardon. Il était aussi important de rappeler que la liberté d'association des étrangers est conditionnée par l'autorisation du ministère de l'Intérieur jusqu'en 1981. Les mouvements féministes français, nous ne reviendrons pas dessus. Voilà, le MLF, la procréation, enfin en tout cas la procréation médicalement assistée. Non, c'est pas encore à cette époque-là. Pardon, les luttes pour la conception et pour l'IVG. Voilà, du coup ça c'est ce qui se passe dans les années 60. Et on sait ce qui se passe actuellement. Alors, juste, je suis un petit peu perdue sur ce qui apparaît à l'écran. Donc, la constitution de la coordination des femmes noires, elle a été fondée en mai 1976 à Paris par Awa Thiam, sénégalaise, et Maria Kalalobé, camerounaise. Ce collectif a été créé autour des mutilations sexuelles féminines. Pardon. Le noyau actif de la coordination des femmes noires est constitué d'une dizaine de membres et d'une cinquantaine de sympathisantes. Et ce sont des jeunes femmes caribéennes qui ont migré très jeunes avec leur mère qui sont venues travailler en France. Ou bien ce sont des Africaines subsahariennes qui sont venues en France pour leurs études supérieures. Elles sont toutes étudiantes, quasiment toutes. Étudiantes et elles n'ont pas d'enfants, elles sont relativement jeunes, on est aux alentours de 20 à 30 ans. Là, le mouvement des femmes noires va être constitué quasiment sur la même base. Il va être du coup constitué en février 1978 par Awa Thiam. Et le point de désaccord, puisqu'il est issu d'une scission de la coordination des femmes noires, se situera autour des enjeux de classe. Donc Awa Thiam qui publie deux mois après, c'est-à-dire en avril 1978, son fameux ouvrage « La parole aux négresses ». Voilà, du coup, Awa Thiam en couverture de la revue féministe Choisir en 1978 et les membres connus du mouvement des femmes noires. En termes de stratégie, je vais aller un petit peu vite parce que je me suis un petit peu laissé aller sur l'introduction. En termes de stratégie, la coordination des femmes noires va être beaucoup plus, va organiser beaucoup plus de rencontres, va être beaucoup plus dans le social. Pour autant, elle va participer à des manifestations publiques, apporter du soutien matériel, notamment à travers la Maison des Femmes et va proposer également une permanence juridique et médicale. Et ça, il nous semblait important de le souligner. C'est ainsi qu'on peut souligner que la coordination des femmes noires s'intéresse beaucoup plus aux enjeux sociaux et quotidiens des femmes noires en France hexagonale et du coup dans la capitale et va concrètement lutter, ou en tout cas revendiquer contre un isolement social quotidien via des cercles de sociabilité comme Ingrid nous le présentera. Le mouvement des femmes noires, quant à lui, va être beaucoup plus dans une prise de position publique, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus s'intéresser à dénoncer des situations, et notamment dénoncer l'intervention française au Zaïre, par exemple, en 1978, ou les répressions des mouvements étudiants au Mali et au Sénégal en 1980. Le mouvement des femmes noires va également organiser des journées, mais en tout cas, ce ne sera pas l'enjeu principal. Ce qu'il fallait donc déduire du mouvement des femmes noires, c'est qu'on va être beaucoup plus sur la production d'une théorie, en tout cas d'une volonté de conscientisation de la situation des femmes noires en dehors de France, avec une mobilisation intellectuelle importante et des liens avec des figures influentes et une mobilisation individuelle telle que la préface de La parole aux négresses de Awa Thiam qui a été rédigée par Benoît Groot.
Donc, analysons ensemble ce qui rapproche et distingue ces deux organisations. Donc, tout d'abord, les deux organisations semblent bénéficier de ce que Laure Bérigny appelle de multipositionnement. Ce multipositionnement leur permet d'avoir des soutiens divers et des partenaires plus ou moins influents. En effet, certaines militantes noires entretiennent des liens avec les partis ou syndicats de gauche et d'extrême gauche, comme Révolution ou la LCA, comme Théophile l'a évoqué précédemment. Les savoirs et compétences accumulées dans les différents cercles militants qu'elles fréquentent constituent une expertise qu'elles mettent à profit pour la création de leur groupe et pour leur activité militante de manière plus générale. Donc, ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que la singularité de la coordination des femmes noires réside dans sa formation en self-help. Donc, vous avez une slide qui explique un peu comment elle se positionne, mais je crois que c'est un peu flou, nous sommes désolés. En effet, elle constitue un cercle de sociabilité dans lequel sont déconstruits le patriarcat, le racisme, le colonialisme et l'impérialisme, dans l'idée de permettre à ses membres d'incarner ces valeurs dans leur quotidien. En effet, les femmes de la coordination des femmes noires, ces militantes ont développé tout un mode de vie identitaire et militant fondé sur la valorisation d'une identité culturelle. Ce mode de vie passe notamment par la réappropriation de leur beauté, de sa beauté, notant que voilà, c'est un véritable enjeu politique hein, dans un processus de reconfiguration identitaire, dans la mesure où les normes de beauté, particulièrement contraignantes pour les femmes, encore plus pour les femmes noires, agissent de manière spécifique. Compte tenu de la stigmatisation et des stéréotypes sur les phénotypes des femmes noires. Alors ainsi, la coordination des femmes noires semble privilégier en tout cas des actions concrètes par et pour les femmes noires. C'est d'ailleurs dans ces objectifs qu'elle développe l'idée de la création de la Maison des femmes noires, comme l'évoquait Théophile. Les deux organisations se distinguent par contre par leur choix d'alliance. La coordination des femmes noires s'associe aux actions des groupes des femmes immigrées et des quartiers populaires. Ces communications sont plus nombreuses dans le réseau militant de gauche et que dans la presse généraliste, par exemple. Ses membres contribuent activement au journal de la Ligue communiste révolutionnaire, le journal Rouge, et à Sans frontières, qui est un bimensuel destiné aux immigrés. Et de l'autre côté, le mouvement des femmes noires semble mener ses actions sur des groupes de femmes des organisations féministes majoritaires et aussi sur et en direction des médias généralistes. Le mouvement des femmes noires a vraiment une idée de développer une théorie de l'émancipation des femmes qui remettrait en question les traditions patriarcales dans leur territoire d'origine. Soulignons aussi que le mouvement des femmes noires fait régulièrement, Théophile l'a dit, des prises de parole politiques. Maintenant, un autre point nous a paru particulièrement intéressant à étudier, c'est la mobilisation de la catégorie femmes noires par les militantes de la coordination des femmes noires et du mouvement des femmes noires. À la fois pour se définir en tant que groupe d'appartenance, mais aussi pour visibiliser leurs discriminations, les discriminations spécifiques qu'elles subissent. Elles dénoncent un sexisme raciste qui s'exprime sur les corps, notamment par des stérilisations forcées et ethnologisation, anthropologisation, la polygamie, la mutilation sexuelle féminine, le droit des étrangers et l'isolement social. Alors, leur constitution autour de cette catégorie de femmes noires, faisant d'elle un mouvement social dit identitaire selon la théorie des nouveaux mouvements sociaux, a pour particularité de fédérer, mais en même temps de scinder ce groupe. En effet, l'identité de femme noire n'est pas une identité intrinsèque. Elle relève d'une hétéro-identification. C'est ce que Papendiaï a traduit par « identité fine », dont vous avez la définition dans la slide. Autrement dit, cette identité relève d'une assignation sociale. Contrairement aux éléments qui constituent l'identité épaisse, dont la définition est sur la slide suivante, et qui pourrait plutôt permettre de construire des revendications plus près des vécus de ces femmes-là. Il y a vraiment une tension au sein de ces groupes entre l'articulation des revendications nourries par l'identité fine et les argumentations nourries par l'identité épaisse. Donc, pour conclure, parce que je crois qu'on est en train de dépasser notre temps, à la lumière des analyses des formes de mobilisation de la coordination des femmes noires et du mouvement des femmes noires, il apparaît que ces femmes à Paris, entre 1976 et 1982, se sont organisées en mouvement social grâce au multipositionnement, elles ont eu des stratégies d'alliance, il y a eu une diversité d'organisations. Leur grande originalité, c'est vraiment que ce sont des mouvements de femmes afrodescendantes qui mobilisent la catégorie de femmes noires. Donc, qui sont bien en train de construire ce que on peut appeler aujourd'hui, en tout cas, des luttes antiracistes. Selon nous, moi, je sais pas, on en débat en tout cas, ce sont les pionnières d'une lutte antiraciste intersectionnelle depuis la France. Voilà, merci pour votre écoute.
Merci pour cette présentation. On va passer aux discussions, s'il y a des intervenants.
Bonjour, merci au panel pour ces interventions passionnantes. Ma question, c'est pour Johanna Monluise-Gabriel et Kay Joseph Massena. Merci pour vos interventions. Je ne sais pas si ma question va être précise, mais je vais essayer. J'ai beaucoup apprécié la manière dont vous soulignez comment le texte de fiction, la littérature est aussi un espace, une ressource épistémologique pour penser et pour pratiquer le féminisme. Et je voudrais que vous développiez un peu plus comment vous voyez vos textes et vos théories de le texte esilphonique, quelle stratégie, quelle pratique, quelle alliance féministe peuvent émerger de ces textes et de cette manière aussi d'aborder la fiction et la littérature. Merci.
Ok, donc merci beaucoup pour cette question. En fait, pour ce qui est de cette idée que je développe autour du texte esilphonique, en fait, il y a plusieurs types d'associations que je fais, enfin que j'ai pas faites pour l'instant complètement. C'est ce que je vais élaborer dans le livre. Mais c'est vrai que du coup, ce qui est intéressant dans cette figure d'Ezili, c'est qu'elle est beaucoup sollicitée. Enfin, elle fait partie de beaucoup de productions culturelles, notamment dans d'autres productions littéraires qui sont pas forcément haïtiennes. Donc, par exemple, il y a un livre d'une auteure dominicaine américaine qui s'appelle Ezili's Skirt, qui est peut-être intéressant, même si du coup il reprend pas forcément les termes du texte esilphonique, mais voilà. Donc ça, c'est l'une des pistes. Il y a d'autres manières de mobiliser en fait Ezili dans le littéraire, et puis d'un autre côté aussi, et qui font partie de démarches la plus franchement féministe, plus affirmée en fait d'un point de vue féministe. Et en fait, il y a aussi au sein de ce qu'ils appellent les études sur la voix, les voice studies, tout un courant féministe qui propose justement l'idée qu'il y aurait comme un phénomène de dévocalisation des connaissances, où en fait on s'est débarrassé de la voix en fait dans nos manières dans notre relation au savoir, tout simplement. Et en fait, du coup, je pense que c'est l'une des collaborations, enfin en tout cas des alliances que je me vois bien faire par la suite. Et puis en fait, plus globalement dans ce qui serait la littérature diasporique des femmes, il y a des liens à faire aussi dans la manière dont la voix est textualisée. Voilà.
Et si je peux du coup ajouter deux ou trois petites choses par rapport à cette question à la littérature en tant que production épistémologique. Ça permet beaucoup de choses, enfin notamment par rapport au registre. C'est quelque chose que j'avais un petit peu développé, que j'ai pas eu le temps vraiment de développer, mais en fait ça permet de mobiliser un certain registre, par exemple tragico-comique, quand il y a ces répétitions dans le texte, notamment de Jaugustin, de ces réflexions racistes qui reviennent pendant 300 pages, c'est assez lourd, mais en fait ça mobilise tout simplement cette insistance en fait de ce racisme systémique. Ça permet aussi de représenter en fait nos expériences, nos vécus, qui ne sont pas forcément, qui commencent à l'être en fait, ce qui est super, même dans la littérature jeunesse notamment, et ça permet aussi de se constituer un petit peu une communauté, n'est-ce pas, et d'avoir tous nos savoirs, tous nos vécus à un seul endroit. Et je voulais vraiment insister sur le fait que, effectivement, enfin, même si la littérature, c'est fictionnel, etc., n'est-ce pas, c'est assez utopique de vouloir dire qu'on fait avancer les choses, qu'on fait changer les choses. Mais en tout cas, encore une fois, pour revenir à ce super texte qui a été publié l'an dernier de Fania Noël, qui parlera ici très bientôt, dans son, c'est afro-communautaire, n'est-ce pas, où elle dit que, certes, enfin, les théories ne feront pas peut-être changer les choses, mais peut-être qu'elles nous guideront. Et je vois vraiment ça aussi dans la littérature, n'est-ce pas, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de...
Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question pour Elodie et Myriam au sujet des relations entre des femmes de Mayotte et les discours qu'elles tiennent vis-à-vis des Comoriens, des Comoriennes. Et est-ce que... vous avez parlé de... Comment est-ce que vous pensez ces relations, vu qu'il y a des relations de famille, que vous avez dit que c'était compliqué, que c'était ambivalent, mais en même temps, il y a des discours qui relèveraient finalement des discours d'extrême droite, puisque vous avez dit qu'elles pouvaient se revendiquer de cette tendance politique, donc ce qui relèverait du coup du racisme. Donc est-ce que vous utilisez cette catégorie de racisme pour parler des relations ou des discours qui sont prononcés par ces femmes mahoraises vis-à-vis de femmes ou des Comoriennes en général?
Alors, on a essayé de se concerter, mais je commence et tu finiras. On a souvent ce type de question, mais c'est la première fois qu'on la pose sous cet angle-là. Parce qu'en général, c'est une question, et je sais bien que ça n'a rien à voir. Mais souvent, on nous dit, mais c'est pas possible que ce soit du racisme, puisque c'est entre noirs. Et on n'en peut plus de cette remarque, en fait, parce que ça montre qu'on a vraiment, dans le contexte français, du mal à faire passer une vraie analyse de ce que c'est que le racisme, en fait, au-delà d'une idéologie violente, etc. Et là, ce qu'on essaye d'appréhender à travers cette forme particulière de, aussi, qui prend des formes parfois violentes, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça fait partie aussi des questions qu'on se pose entre, là on a beaucoup présenté des choses idéologiques, mais il y a aussi des formes de pratiques, hein, et on n'a pas eu le temps d'exploiter aussi le lien entre les discours et les pratiques, comme par exemple empêcher la préfecture, le guichet, l'accès au guichet des étrangers à la préfecture, etc., où là c'est des discriminations plus concrètes qui ont des effets aussi très, très concret sur la vie des gens qui viennent se faire régulariser. Et donc, il nous semble que c'est vraiment une forme d'altérisation qui est très forte et qui est indépassable, quand bien même ça traverse la famille. Et je pense qu'il y a déjà eu dans l'histoire des moments où on a vécu la fabrique d'une frontière qui devient indépassable, évidemment dans le cas du Rwanda, et qui traverse les familles, en fait. Et notre intuition, c'est que parfois, c'est même d'autant plus fort et devenu d'autant plus infranchissable que ça traverse des expériences ordinaires. Et nous, on l'a vu, par exemple, entre belles-sœurs, il y a des formes de violence extrêmement fortes entre les femmes mahoraises et leurs belles-sœurs anjouanaises, notamment, où elles peuvent parfois les chasser de la maison avec leurs neveux et nièces en leur disant, je ne sais plus le terme qu'elle avait utilisé, va-t'en avec tes petits moutons. Ouais, va-t'en avec tes petits moutons, etc. Alors, c'est des choses extrêmement violentes à l'intérieur de la famille. Et c'est ça qui nous semble assez intéressant, de pouvoir conceptualiser cette forme de racisme, mais qui n'est pas une forme comme les autres, en fait, parce qu'elle ne peut, à notre sens, elle ne peut se comprendre que contextualisée dans un ensemble plus large, qui est celui de ce qui reste de l'ordre social colonial, hein, parce que c'est aussi à cause d'un... J'appelle ça, mais c'est pas encore très... analyser, mais voilà, pour moi c'est un peu, mais je sais pas ce que t'en penses, Mama, je pense que t'as beaucoup d'idées sur la question, plus que moi, mais un genre de temps zéro dans les familles, en fait, c'est-à-dire le temps zéro de la partition qui vient figer un peu la position qu'on a au moment de la partition, les positionnements qu'on a pris. On fait souvent référence à au moment de la partition, quel positionnement t'as eu, t'es de quel côté, etc. Et ça vient figer, en fait, des frontières qui traversent toutes les familles, et notamment celles qui sont des milieux les plus aisés, hein, qui sont beaucoup de chaque côté de la frontière.
Je rejoins tout à fait Élise, et c'est des questions qu'on s'est souvent posées. C'était compliqué pendant les entretiens, parce qu'on a rencontré ces femmes qu'on a beaucoup aimées, qui sont dans un système de contraintes, et on s'est dit, mais est-ce qu'on dit, est-ce que c'est du racisme, pas du racisme? Mais effectivement, il y a des pratiques et il y a quelque chose qui se joue là récemment. Alors c'est encore de l'ordre de l'intuition, je suis pas sûre. Les Maorés sont de statut de droit local, hein, qui est différent de droit commun. Et lors de notre dernier séjour à Mayotte, on a fait des observations à l'état civil. Lorsque les mamans ou les papas venaient déclarer leur enfant. Et les agents d'état civil, lorsqu'il s'agissait de quelqu'un de droit local, se disaient « Eh ben oui, c'est un Français ». Donc on arrive à cette situation paradoxale à Mayotte, française, où ceux qui seraient les plus Français seraient ceux qui seraient de droit local musulman. Donc, vous venez de droit commun. Si vous avez eu la naturalisation française, c'est compliqué. En tout cas, bref, c'est pour prolonger quelque chose. Il y a les pratiques, et il y a encore quelque chose de nouveau qui s'est, je pense, encore rigidifié avec le discours qui s'est durci, hein, relayé aussi par le discours de la métropole sur l'immigration illégale. Donc, oui, c'est du racisme. La venue de Macron, la réforme du droit du sol, c'est à Mayotte qu'elle a été commencée. Hein. C'est vraiment le laboratoire d'essai, le banc d'essai pour aller durcir encore plus les frontières.
J'abonderai assez dans le sens d'Élise, dans le sens où finalement il ressort derrière ces expressions racistes une mémoire traumatique de la partition, quelque chose d'abstrait, d'émotif. Et je trouve que le parallèle avec la communication de Kay, elle est très intéressante, puisque les textes hésidiphoniques nous parlent aussi de cette émotionnelle qui s'exprime à travers la voix et... l'ambivalence aussi des positionnements. Donc il y a un dialogue aussi qui est assez intéressant.
Merci. Ma question est pour Ingrid et Théophile. Vous présentez bien ces deux mouvements et je me suis demandé que sont devenus ces mouvements. Et est-ce que vous pensez que ces deux mouvements ont quand même eu un impact sur les mouvements de femmes, que ce soit des femmes noires ou non, en France ? À travers leur démarche, à travers les thématiques aujourd'hui.
Alors, pour répondre sur la question de quel impact, alors pour répondre à cette question que moi-même je me suis posée dans ma recherche, j'ai exploré plusieurs voies. D'abord, quel mouvement il y a eu après, quel mouvement social, que ce soit comme des mouvements noirs ou des mouvements de femmes. Donc, En termes de mouvement antiraciste, ben après il y a eu la marche de 1983 et donc du coup l'émergence après d'une association en particulier qui s'est fait démarquer, qui porte un antiracisme sur lequel on peut avoir des critiques aujourd'hui. Après, en ce qui concerne les femmes, en tout cas, et les femmes noires, il y a eu un petit creux, un creux de la vague, comme on peut dire, dans l'historiographie des mouvements féministes. Et entre les années 90, dans les années 90, il y a eu énormément d'associations de femmes africaines partout en France, notamment en région parisienne, dans les banlieues. Et elles portaient des revendications qui étaient très liées à leur quotidien et à leur situation de parents qui élèvent des enfants en banlieue. Et ce qui était assez intéressant avec ces modes d'organisation-là des années 90, c'est que je ne sais pas quelle influence il y a eu avec ce qui s'est fait avant, en tout cas pour parler de celle-ci, mais ça leur a permis de rentrer dans ce qu'on appelle le champ de la représentativité. C'est qu'avec ce statut d'association, elles ont pu défendre un certain nombre de choses. Elles étaient invitées dans les ministères pour pouvoir porter leur parole de femme africaine. Donc il y a eu voilà déjà quelques éléments de réponse. Enfin, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, mais après un autre élément de réponse que je peux qu'on peut, enfin une autre piste de réflexion serait ben, qui se revendique de cet héritage-là en fait. Et aujourd'hui, c'est depuis vraiment les années 2010 que celles qui s'appellent aujourd'hui les afroféministes se revendiquent de l'héritage de ces mouvements-là. Et donc du coup, je vous invite à lire en tout cas l'article Nos vies sont politiques de Lucilienne Larcher qui est paru en 2017, qui parle justement de ces mouvements là, en tout cas à travers un entretien en particulier des afroféministes, et qui en donne une définition justement qui ressemble beaucoup à ce que portaient ces femmes là. Donc ensuite, ma dernière piste de réflexion, elle se tourne plutôt autour de la réception de ces mouvements-là, de la coordination des femmes noires et du mouvement des femmes noires. Et en fait, la coordination ces deux mouvements-là ont eu une existence assez éphémère. Hein, 76-82, c'est rapide en termes de temps. Ensuite, les forces vives n'étaient pas si importantes que ça. Enfin, sans vouloir minimiser ce qu'elles ont fait, il y avait à l'époque une émulation et c'était des noyaux de 30 à 40 personnes, ce qui est déjà beaucoup. Mais en fait, au-delà des forces vives qu'elles ont pu avoir, et donc peut-être de comment elles ont pu essaimer ou pas, ou obtenir une visibilité, je me suis attachée à regarder quelle visibilité elles ont eue dans la presse féministe et un petit peu dans la presse généraliste, mais je vais plutôt parler de la presse féministe parce que c'est là où il y a eu, où j'ai eu une démarche plus systématique en fait. Et en fait, elles ont été, leur lutte a été identifiée principalement sur la question de l'excision. Donc du coup, à partir du moment où en fait on s'est focalisé que sur l'une de leurs revendications, on a un peu l'idée a disparu de la lutte antiraciste. C'était une lutte d'africaines sur le territoire qu'il fallait aider, avec qui il fallait rentrer en solidarité pour les aider. Après, cette réception-là est ambiguë parce qu'en fait, la coordination des femmes noires et le mouvement des femmes noires elles-mêmes n'étaient pas toujours d'accord sur la façon de se mobiliser autour de cette question-là. Et donc, du coup, il y a eu un jeu d'alliance qui s'est fait entre ces deux organisations-là et les autres organisations de l'époque qui fait que peut-être que leur impact a été minimisé ou a disparu ou a été rendu invisible du fait que elles ont été reprises que pour une revendication. Donc voilà.
Moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à l'impact qu'elles ont eu, j'ai l'impression que votre question c'était plutôt l'impact qu'elles ont eu en France. Et moi, ce que j'aimerais questionner, c'est l'impact qu'elles ont eu une fois qu'elles sont rentrées dans leur pays. Et un peu d'après nos recherches, ce qui se passe, c'est que les militantes du coup de la coordination des femmes noires et du mouvement des femmes noires rejoignent des organisations dites féministes ou féministes dans leur pays d'origine. Et je pense notamment à Suzy Landau en Martinique. Voilà, du coup, en fait, il y a une continuité du militantisme de ces militantes-là. L'autre point aussi que je voulais rajouter, c'est que j'ai l'impression que tout simplement, en fait, ces deux groupes disparaissent principalement parce que les militantes en fait rentrent dans leur pays d'origine. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il y a un point d'arrêt clair et net, et ça je pense que c'est aussi important de le rappeler, et qu'il y a aussi une continuité avec le mouvement de défense des femmes noires, le MODEFEN, et avec du coup Moissy actuellement, ce sont donc la coordination des femmes noires et le mouvement des femmes noires, le MODEFEN et Moissy, il me semble, hein, que ce sont les trois seuls groupes, en tout cas mouvements, qui ont mobilisé de manière collective et politique la catégorie de femmes noires. Voilà. Après, ce que je voulais rajouter, voilà, de manière très brève, en termes d'impact, je pense que ce qui est important aussi, c'est puisqu'elles sont rentrées dans leur pays d'origine, il n'y a pas eu de transmission de manière directe, en tout cas de manière intergénérationnelle, avec des femmes noires en France, et que pour moi, c'est aussi peut-être une question de responsabilité d'écrire de manière précise. Ce qui s'est passé, et pour moi en tout cas de dire qu'en tout cas que la coordination des femmes noires a été créée en 78 ou bien qu'elle a été créée en 1976, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes conséquences et c'est pas les mêmes enjeux. Dernière chose en termes d'impact et de... Désolée, je suis historien, du coup les dates sont importantes, voilà, pour certains les mots sont importants, pour moi les dates sont importantes, et voilà, ce que je voulais aussi préciser, c'est qu'en termes de formes de mobilisation collective, finalement, certaines formes de la coordination des femmes noires, en termes d'espace de sociabilité, de contestation collective et politique, ce sont clairement des formes qu'on retrouve aujourd'hui au sein de Moissy. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important à mobiliser dans une logique de temps long de lutte, et que la révolution, elle ne va pas venir, elle est déjà là.